Tendre la parole à Marine Knebuller, qui est doctorante en co-tutelle à l'Université de Lausanne et à Télécom Paris Tech, et dont les recherches portent sur les articulations possible entre l'expérience phénoménologique en première personne du singulier et l'expérience collective en nous, et donc potentiellement les implications politiques. Donc,
merci beaucoup. Dans cette intervention, je vais vous présenter les premiers éléments d'analyse qui se trouveront dans un chapitre de ma thèse que je suis en train de rédiger. Une thèse qui suit, dans mon cas, un seul individu et qui essaye de le tenir dans tous les chapitres de la thèse, qui est Elka, un rappeur suisse roman, et chaque chapitre propose une série d'analyses à partir de divers matériaux qui sont tous reliés à une situation concrète d'écriture d'un couplet par Elka pour une chanson commune à destination de son collectif hip-hop Les Uns. Elka qui a été d'accord de se filmer seul en train d'écrire pour les besoins de mon enquête. Ce qu'il y a d'important à savoir concernant cette situation, c'est que le couplet qui sera au cœur de ma réflexion aujourd'hui découle de ce travail d'écriture filmée. C'est également autour de cette vidéo que j'ai réalisé des entretiens avec Elka et que j'ai constitué un corpus de chansons liées à son collectif que je mobiliserai à certains moments de mon analyse. Donc je commencerai par présenter rapidement les outils de l'analyse énonciative qui me permettront de parler du couplet de Elka pour la chanson dont le titre est « J'ai peur de moi ». Et si l'analyse énonciative est habituellement utilisée pour produire des analyses de discours publicisé, je proposerais de réfléchir à cette étrange situation de communication où le premier destinataire du couplet que Elka est en train d'écrire est lui-même. Donc à partir de l'analyse de cette configuration énonciative, de la manière dont Elka s'écrit, j'ouvrirai enfin une réflexion sur l'idée d'altérité à soi qui est incorporée aussi bien à l'acte d'écriture en lui-même qu'à ce que dit le texte du couplet. Donc l'analyse énonciative à laquelle j'ai été formée et à partir de laquelle je réfléchis est celle de Jean Widmer, sociologue, suisse lui aussi, qui s'est beaucoup inspiré, entre autres choses, des travaux en sociosémiotique et à l'analyse de catégorisation. Donc il s'agit très rapidement de différencier l'énoncé de l'énonciation en rendant compte de la façon dont un même contenu peut avoir des significations très différentes suivant son contexte discursif. Widmer va développer l'idée de place relationnelle pour tout discours. En somme, il nous dit que tout acte de communication dispense au moins trois places. Un énonciateur, un destinataire et un monde dont on parle, une définition de la réalité, et ainsi que des relations internes entre ces trois places discursives. De plus, selon Widmer, dans cette configuration à trois places, on peut dénicher dans tout discours des procédures d'identification collective. Donc je le cite lorsqu'il parle de la presse par exemple, « Énonciateur et destinataire sont des places discursives identifiées comme catégories liées à l'objet journal, à sa lecture ou à sa production. L'identification de ces places est spécifiée au long des rubriques et des articles dans un entrelac complexe de catégorisation rendu pertinente, et j'ajoute, en s'appuyant sur un savoir partagé. » Ce qui peut être transposé pour le rap comme l'entrelac complexe de l'objet CD, de titres, de sampling, de mots, de musique, de phases, de gestes, de couplets, de refrains, etc. Donc voici donc poser un peu les bases à partir desquelles je réfléchis. Pour un contexte bien particulier où Elka rédige son couplet pour « J'ai peur de moi », qui actuellement est, pourrait-on dire, au seuil de sa publicisation, puisqu'elle n'a pas encore tout à fait une forme définitive. Donc si Elka est le premier destinataire de sa propre écriture, il faut aussi pouvoir réfléchir à une pluralisation progressive des récepteurs du texte. Donc, pour bien me suivre, je vous donne juste 2-3 éléments de contexte de cette création. Donc avec 2 autres membres du groupe, ils décident d'une thématique, la peur de soi. Elka est le premier à écrire, cela tombe au moment où il se filme pour moi. Moi qui deviens le premier destinataire public, ce qui va ouvrir l'énonciation du texte au monde académique dont cette communication constitue une forme de réception. Ensuite, il est le premier à l'enregistrer au studio avec Olek, qui a produit l'instru et s'occupera de la prod sans la présence des autres personnes. C'est donc le deuxième destinataire. Les autres rappeurs y ont accès au moment de l'enregistrement de leur couplet, mais... Enfin voilà, ça c'est les 2-3 éléments. Donc Elka est donc, dans la situation de départ, son véritable premier public, son premier destinataire. Et d'ailleurs, durant tout l'instant de création, son écriture est sans arrêt accompagnée de relectures, la tête bougeant en rythme à la manière d'un auditeur de rap sur la prod qui tourne en boucle dans la pièce, et d'essais de scansion lui permettant de s'écouter lui-même par la résonance corporelle de sa voix. C'est très intéressant du point de vue de l'analyse énonciative, car à ce moment-là précis, la place de l'énonciateur et la place du destinataire fusionnent en une seule et même place qui est occupée sur le plan phénoménal par une seule personne, un seul et unique corps. L'enjeu est alors de proposer une forme d'analyse énonciative qui se situe d'abord sur le plan de l'expression ou de l'expressivité, sans avoir besoin de la présence d'autrui pour avoir un effet, et pas tout de suite sur le plan de la communication, en considérant cette fusion de places discursives, donc sur un plan analytique, qui laisse place au corps sur le plan phénoménologique et pragmatique. Donc, à propos de l'expression et du corps, Merleau-Ponty disait bien, et je le cite, « Mon corps est le lieu, ou plutôt l'actualité même du phénomène d'expression. En lui, l'expérience visuelle et l'expérience auditive, par exemple, sont prégnantes l'une de l'autre, et leurs valeurs expressives fondent l'unité antéprédicative du monde perçu, et par elles, l'expression verbale et la signification intellectuelle. Mon corps est la texture commune de tous les objets, et il est au moins à l'égard du monde perçu l'instrument général de ma compréhension. » Donc Elka a souligné ce phénomène d'expression de manière intéressante avec ses propres mots alors que nous parlions d'une de ses chansons solo qui traite du passage par l'écrit dans ses raps où il dit pour dernière phase « Quand on communique, on parle pas ». Donc c'est moi qui dans la discussion en avais parlé en lui disant que je la trouvais moins mystérieuse depuis que j'avais écrit des choses sur le corps et il avait dit à ce propos… Alors effectivement, il y a de ça, du mouvement, puis on ne parle pas forcément. Effectivement, si tu regardes les concerts, des fois, on ne dit pas les paroles parce que c'est l'autre qui rappe, puis on bouge quand même. Donc effectivement, là, il y a de ça. Mais je dirais que c'était... je l'avais moi surtout écrit parce que quand tu communiques vraiment, ben, tu es en train d'écrire. Parce que quand tu lis, tu le récites. Donc tu ne communiques plus. Enfin, tu peux le communiquer après à quelqu'un. Et je lui propose, ce n'est pas une conversation, quoi. Et lui de répondre immédiatement, voilà. C'est une conversation avec soi-même. Donc en fait, quand on communique, on ne parle pas, c'est que quand on communique avec soi-même, on est en train d'écrire. Donc il insiste également souvent sur le fait que lui, et c'est un élément partagé avec les autres rappeurs de son collectif dans les textes et dans les discussions, écrit avant tout parce qu'il en a besoin, quand bien même il se soucie des mauvaises interprétations possibles de ses textes et qu'il anticipe toujours déjà dans une certaine mesure leur circulation et la communication. De manière intéressante, dans le cadre de « J'ai peur de moi », la compréhension par le corps dont parlait Merleau-Ponty dans la citation précédente est traduite ici sous une forme verbale du fait de la thématique évoquant le titre qui cadre l'activité de création, qui dirige cette compréhension par le corps vers soi. Donc la réalité dont Elka s'apprête à parler en se mettant dans la situation d'écriture vient en fait faire fusionner la troisième place anticipée par Widmer avec les deux autres. Donc celle du monde dont il parle, ou plus justement, à l'interne de la situation d'écriture, celle qui est occupée par ce dont il est en train de se parler. Donc il semble alors que dans cet acte d'expression, les trois places discursives de l'analyse énonciative sont plus justement appréhendables si on le considère à partir de ce que j'appellerais une instance phénoménologique, la chair de Elka, une chair habitée par du langage et qui donc ouvre nécessairement vers du commun et autrui suivant des degrés divers. Donc essayons de voir maintenant un peu ce que ça donne si on essaie de produire une première analyse énonciative des paroles écrites par Elka à partir de la situation d'expression à présent décrite. Donc si jamais j'ai mis le couplet à projeter, c'est écrit couplet Elka, comme ça vous pouvez l'avoir sous les yeux. Donc le couplet est un 16 dans son entier que je vous propose de décortiquer en 4 blocs suivant la découpe de Elka à l'écrit. Donc ça fait « J'ai peur de moi-même, donc peu d'espoir d'être, celui qui me sauvera à moitié responsable si j'atteins pas la berge, je suis mon propre traître, mon portrait craché, mon propre monstre, une bombe humaine au minuteur cassé. » Donc le texte s'ouvre sur une auto-qualification de sa vie intérieure, dominée par la peur de soi, elle-même liée à la peur de ne pouvoir être. Très vite, et pour l'unique instant du couplet, Elka propose la possible intervention d'un tiers indéterminé, celui qui, peut-être tout un chacun, qui accomplira l'action de sauver. Un sauveur de cette peur qui empêche d'être. La métaphore de la berge fait intervenir un but à atteindre, mais qui n'est pas directement lié à l'intervention du sauveur. Le sauveur peut faire disparaître la peur d'être et en ce sens, il devient responsable de l'existence sauvée, mais sachant qu'être sauvé de la peur n'est pas ici vécu comme l'équivalent d'être sauvé de la noyade. À cet égard, la fin de la phrase sonne comme une prévention. La responsabilité sera partagée si je finis par me noyer. « Je suis mon propre traître » ouvre un dédoublement de soi qui peut être une raison de cette peur. L'autre en moi est catégorisé comme le traître qui n'est pas à chercher ailleurs, mais habite cette même intériorité exposée. Mon portrait craché est le premier élément d'une énumération de qualificatifs de ce soi dédoublé. Ce syntagme nominal indique que ces deux « je » en moi se ressemblent et insère également à l'écrit un lexique lié à l'aviation, au crash d'un avion. Deux autres qualificatifs sont énumérés qui viennent justifier la peur de soi. Le traître est aussi à la fois monstre et humain, tout en disposant des mêmes propriétés qu'un objet explosif à retardement se trouvant dans l'incertitude du moment de son explosion. Une métaphore qui pourrait, sur le plan de la communication, faire entendre cracher, pardon, avec S, et non cracher avec C à un auditeur attentif. La suite fait. Au menu sueur, phobie, angoisse et blême de cœur, on souffre qu'à l'autopsie, anesthésié par tous ces verres de rhum, sort plus la tête dehors, j'évite les dommages collatéraux, donc je reste très haut, si j'atterris, j'explose. Donc après la description du dédoublement de soi, de la peur et des qualificatifs de ce soi dédoublé, il amorce une énumération annoncée par le haut menu des ressentis allant de pair avec cette intériorité souffrante, la sueur, les phobies, les angoisses, les problèmes de cœur. De manière intéressante, LK passe à un registre générique par l'usage du « on » plutôt que du « je ». Le « on » générique se raccroche, au vu de ce qui précède, au dédoublement à l'intérieur de la chair humaine. Ce « on » ne s'ouvre qu'à l'autopsie anesthésiée par tous ces vers de rhum. Donc, dans nos discussions sur ces textes, LK dit souvent apprécier les phases qui ont plusieurs possibilités d'interprétation et qui peuvent être interprétées de plusieurs manières, à la façon de « quand on communique, on ne parle pas », comme si cela densifiait la qualité du texte. Donc là, je dégage deux interprétations qui se présentent sur le plan énonciatif. La première, littérale, renvoie à la mort. L'ouverture évoquant la pratique chirurgicale du médecin légiste et l'anesthésie par l'alcool indique qu'une ouverture sur l'extérieur durant le vécu, libératrice, est impossible à cause de la suppression des ressentis et sensations provoquées par la consommation d'alcool. La deuxième interprétation dirait plutôt que l'ouverture se trouve d'emblée sur le plan métaphorique et renvoie à la libération de cette intériorité corporelle angoissante et phobique. Dans ce cas, l'autopsie peut être envisagée comme une autothérapie, une autopsie, PSY, auto-analyse par l'écriture qui peut venir à l'esprit lorsqu'on connaît les autres textes de LK qui décrivent le rap comme une thérapie. Par exemple, il peut dire « il ne me parle pas de psychiatre, moi j'ai déjà la 4 ». Une réflexion sur soi qui ne peut intervenir qu'avec la suppression des ressentis grâce à la consommation d'alcool, elle aussi souvent associée à l'écriture dans les autres textes du corpus. Avec le « sort plus la tête dehors », LK revient à son jeu, l'ouverture libératrice qui semble quasi impossible à provoquer, faisant contraste avec un enfermement, est accentuée par une coupure avec l'extérieur. Le repli sur soi se double ici d'un repli chez soi. Le « j'évite les dommages collatéraux » se comprend comme une auto-justification donnant une raison de la coupure avec le dehors, comme pour éviter de le contaminer. Par conséquent, il s'agit de rester très haut pour ne pas atterrir, ce qui reviendrait à exploser. Cette fin de bloc file la métaphore de l'aviation avec l'idée d'atterrissage, le très haut se liant également à l'idée de planer sous l'effet de la consommation de l'alcool. Le troisième bloc fait « je vis à mes risques et périls, quand l'amnésie persiste, on se dit que tout est paisible alors que le problème s'épaissit, pessimiste, ouais mais ça m'évite de prendre des gifles, on grandit vite quand on est à 30 dans le cockpit ». Le début du troisième bloc reste à la première personne et indique une manière de vivre dans le danger qui s'assume comme telle. Ce bloc quitte l'altérité intérieure en commençant par affirmer le fait de s'assumer tout entier, malgré un dédoublement, et bascule entre la parole sur l'humain générique et la parole sur soi. Ensuite, quand l'amnésie persiste, on se dit que tout est paisible alors que le problème s'épaissit, dit la possibilité temporaire de ne pas se souvenir, par rapport à ce qui précède, ne pas se souvenir du dédoublement de soi, du tiraillement en soi qui nous fait dire faussement que tout est paisible. Le fait de voir les choses de cette manière l'amène à se qualifier de pessimiste. Le « mais » qui suit immédiatement anticipe un contre-argument qui dirait qu'il est possible d'essayer de vivre son intériorité de façon plus positive. Ce contre-argument préventif donne une raison à ce pessimisme. Il permet de ne pas se prendre des gifles. Comme il n'y a pas de mention par qui ou quoi, la gifle a une portée très générale et peut évoquer déception, désillusion, échec, rejet. Avec « on grandit vite », il rebascule dans une affirmation à portée générique et universelle en pointant la difficulté de rester enfant. Cette difficulté a une cause, celle d'être 30 dans le cockpit. Donc la terminologie employée reprend la métaphore de l'aviation en mentionnant le lieu où est supposé se trouver l'équipage avec une condition marquée par le camp. En fait, avec le cockpit, LK récupère d'un même coup la question de la pluralité de ses selfs. Mais je le comprends en tant que destinataire familière du texte, comme tout autre... De familière de LK, Oleg aussi très certainement, comme tout auditeur familier des couplets publiés de LK. Donc notamment dans une autre chanson qui s'appelle « Dans nos têtes », dans le premier album signé Les Uns qui s'appelle « Bestiaire volume 1 », LK dit avec Oleg « trop de questions pour un seul homme car on est 30 en moi ». Dans ce contexte énonciatif, le cockpit renvoie alors à la tête qui dirige l'entier du corps et qui n'est pas occupé par une seule conscience. La fin fait « passe pas les commandes, sinon c'est carton plein. On parle en vain quand l'inconscience a déjà toutes les cartes en main. L'ennemi est dans le miroir, les soucis dans les tiroirs, et un matin devant la glace, on se met à crier « tire-toi ». La suite continue de filer la métaphore du cockpit, et si on est familier de nouveau des textes des uns et de LK, on peut savoir qu'il est en train de proposer un clin d'œil, donc il produit une forme d'adresse complice à deux autres membres des uns qui ont un titre appelé « Passe-moi les commandes ». Le refrain scandant « Passe-nous les commandes, de quoi piloter ton hip-hop ». Donc sans disposer du savoir partagé, l'usage de l'impératif indique une adresse au futur auditeur à qui il demanderait, contrairement à ses collègues, de ne pas le laisser aux commandes afin de ne pas empirer la situation. Par contre, si l'on maintient l'interprétation dans la continuité du cockpit, c'est comme s'il adressait cette demande à l'un des 30 habitants de sa tête. Il repasse ensuite à une affirmation générique présentant la vanité de la parole, potentiellement la communication lorsque l'inconscient domine. La fin du texte poursuit la description d'une condition générique tout en revenant à l'idée de dédoublement où l'ennemi est dans le miroir. Le choix de l'article défini pour introduire l'idée d'ennemi renvoie à celui de chacun suivant l'idée que chacun a son propre ennemi. Les soucis dans les tiroirs restent dans la même logique énonciative mais en renvoyant à une métaphore de l'inconscient qui fait écho avec le « quand l'aménésie persiste ». Finalement, on retourne au miroir avec « Et un matin devant la glace » qui, grâce à la métaphore précédente, évoque la prise de conscience du dédoublement et qui se conclut par un rejet de soi. Donc on voit qu'avec une analyse énonciative détaillée, il est possible de voir plein de dimensions qui passent de l'expression à la communication. On voit aussi que le monde que LK dépeint, s'il renvoie bien une intériorité, décrit également une condition existentielle commune par l'usage du « on » et propose des allusions aux autres membres des uns qui permettent de saupoudrer son texte d'éléments partagés. Des sortes de couches énonciatives qui émergent et qui pourront certainement être décortiquées encore plus finement. Il n'en demeure pas moins intéressant de réfléchir à ce premier moment où les trois places énonciatives fusionnent en une seule instance phénoménologique et qui, déjà sur le plan de l'expression, laisse émerger la présence d'autrui qui commence, peut-être de manière surprenante, par la considération d'une altérité à soi et non d'une altérité à l'autre. En somme, dans ce couplet, LK est plus étranger à lui-même qu'il ne semble étranger à un « on » partageant cette même altérité à soi. Au niveau de la communication, de la diffusion publique du couplet, cela configure une place qui semble ici pointer vers celle d'un destinataire d'une intériorité torturée décrite comme en pouvant être la sienne propre. Si proposition d'identification collective il y a ici, c'est donc bien plutôt sur sa reconnaissance en tant qu'humain problématique plutôt que comme faisant partie d'une catégorie sociale et culturelle déterminée. Donc pour terminer, j'aimerais juste dire deux mots à propos de la qualification de ce genre de rap qui n'est ni politique ni contestataire, mais semble relever de ce qu'Anthony Pequeux nomme la figure de l'auto-ironie, à savoir les moments où les rappeurs s'adressent à l'auditeur pour parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils font et de ce qu'ils lui disent en rap. Ce genre de rap me paraît particulièrement important à investiguer plus avant dans la mesure où il semble massivement présent, sinon majoritaire, par rapport à des textes d'emblée orientés vers un impact social et politique et proposant une prise de parole d'emblée engagée. Un genre politique et contestataire qui me semble retenir le plus souvent de l'attention du monde académique. J'ai proposé par ailleurs de qualifier le genre de rap pratiqué par LK et les uns plutôt comme une autographie, qui renvoie à l'idée de s'écrire. Un terme que j'emprunte notamment à Albert Piette qui permet de pointer cette réflexion sur soi, en premier lieu destinée à soi, mais ne précise pas d'emblée la couleur de cette parole sur soi, au sens où l'autographie pourrait relever effectivement de l'ironie, mais aussi de la critique ou de la thérapie, etc. En ayant toujours comme horizon une distance interrogative à soi rendue possible par l'écriture. Parler d'autographie me paraît aussi intéressant quant à l'idée de conversation que l'on retrouve également dans le livre de Pequeux à propos des voix du rap, où il nous dit « c'est d'une façon de se lier avec autrui dont il est question et qu'il s'agit en quelque sorte d'une politique de l'intimité dans et par la conversation ». Nous l'avons vu avec LK, l'autographie est aussi vécue comme revêtant un aspect conversationnel. Une conversation avec soi comme activité que l'on sait partager par d'autres ou que l'on partage effectivement parfois avec d'autres. Une activité de converser tous ensemble avec soi-même. Cette conversation avec soi n'empêche donc pas, comme toute autre forme de conversation, de faire appel à la présence d'autrui en pensée, autrui en tant que membre de son collectif d'attachement ou en tant qu'auditeur complice. Une pensée pour soi qui est donc à la fois pensée pour autrui, pour reprendre à nouveau Merleau-Ponty, je cite, « Nous n'avons pas à choisir entre le pour soi et le pour autrui, entre la pensée selon nous-mêmes et la pensée selon autrui, mais dans le moment de l'expression, l'autre à qui je m'adresse et moi qui m'exprime sommes liés sans concession. » Finalement, on peut noter que la proposition d'identification réalisée par LK via une conversation avec soi résonne fortement avec les fondements mêmes de la possibilité de l'intersubjectivité en phénoménologie. C'est bien ce que nous rappelle Nathalie Deprat à partir de Husserl en disant que c'est la présence d'une altérité à soi, à la fois temporelle, imageante et réflexive, du sein même de l'ego qui donne lieu à autrui. Si cette altérité à soi semble terriblement difficile à vivre, dans la mesure où la conversation que LK entretient avec lui-même est marquée par l'angoisse et les rejets, il paraît néanmoins qu'en la communiquant avec les uns, elle devient une manière d'explorer à plusieurs les conditions de possibilité de notre existence avec les autres en se présentant comme un collectif d'expression de soi. Ce collectif n'est donc pas politique au sens où il n'est pas orienté directement vers la contestation civile, mais interroge malgré tout, et je crois sincèrement que ce n'est pas rien, les conditions minimales et universelles du vivre ensemble en scandant les tourments et la vulnérabilité que nous vivons tous en tant qu'êtres humains. Merci beaucoup.